Bonjour, bonjour. Nous sommes bien le lundi 30 mars 2015. Bonjour auditeurs, auditrices. Bienvenue sur Radio Diwa 107.5 FM si vous nous rejoignez. Et vous savez aussi que vous pouvez retrouver cette radio en direct et en podcast sur rdwa.fr sur Internet, où toutes nos émissions sont en podcast, c'est-à-dire téléchargeables en quelques clics. Bienvenue donc sur Radio Medium, Radio Medium numéro 28, en direct du studio de Radio Diwa. Il est 11h10 bientôt. Notre Radio Medium, notre ou votre émission de spiritualité concrète, puisque l'équipe de Radio Medium, représentée par moi aujourd'hui au micro, bonjour, est une équipe à géométrie variable, puisque aujourd'hui, en fin d'émission, nous entendrons une improvisation mystique, vocale et autodidacte par Michael, ressourcement dans le Diwa, que vous reconnaîtrez. Bonjour Michael.
Bonjour. Salut tout le monde.
Et aujourd'hui, j'ai eu envie, je suis tombé sur un livre fort instructif, un livre de sagesse un peu particulier, le Papalagi, les étonnants propos de Tuiavi, chef de tribu, sur les hommes blancs. Les hommes blancs, c'est les Papalagi. Il s'agit d'un livre d'Erich Scheuermann, S-C-H-E-U-R-M-A-2-N, livre dont je vais commencer la lecture. Erich Scheuermann est né en 1878 à Hambourg. Il a été à la fois peintre, écrivain et conteur. Et peu de temps avant le début de la Première Guerre mondiale, il se rend à Samoa. Profondément imprégné de la civilisation polynésienne, nous lui devons de nombreuses photographies de l'île. Au printemps 1915, il gagne les États-Unis et rejoint l'Allemagne avant la fin de la guerre. Son livre, Le Papalagi, est paru en 1920 en Allemagne, mais il aura fallu attendre le début des années 80 pour qu'il paraisse en français. Il est aujourd'hui traduit en une quinzaine de langues et il est vendu à des millions d'exemplaires. Erich Scheuermann est décédé le 4 mai 1957 à Armsfeld. Le Papalagi. Les paroles de Tuiavi, chef de la tribu de Tiavea, dans les îles Samoa. Recueilli par Erich Scheuermann, traduit de l'allemand par Dominique Roudière, aux éditions Présence Images, et il est paru en pocket. Le Papalagi désigne le blanc, l'étranger, et littéralement le pourfendeur du ciel. Le premier missionnaire blanc qui débarqua à Samoa arriva sur un voilier. Les aborigènes prirent de loin les voiles blanches pour un trou dans le ciel à travers lequel le blanc venait à eux. Il traversait le ciel. Je vais commencer par une introduction de Erich Scheuermann dont je vais lire de larges extraits. Ce n'était pas du tout l'intention de Tuiavi de publier ses propos en Europe, ni même de les faire imprimer. Ils étaient pensés exclusivement pour ses compatriotes polynésiens. Quand je transmis cependant, sans qu'il le sache et certainement à l'encontre de son désir, les discours de cet aborigène au lectorat européen, il ressortit de la traduction que cela pourrait être important pour nous, blancs éclairés, d'expérimenter comment les yeux d'un homme encore étroitement lié à la nature appréhendaient nous et notre culture. Grâce à son regard, nous ressentons ce que nous sommes d'un point de vue que nous ne pouvons plus percevoir nous-mêmes. Bien que sa façon de voir enfantine ou même puérile puisse être trouvée niaise, surtout par des partisans de la civilisation, plus d'un mot de Tuiavi, plein de bon sens et de modestie, doit donner à réfléchir et forcer au regard sur soi, car sa sagesse, qui ne provient d'aucune érudition, vient de la simplicité qui est de Dieu. Ces discours ne sont ni plus ni moins qu'un appel à tous les peuples primitifs des mers du Sud à se détacher des peuples éclairés du continent européen. Tuï Avi, dénigreur de l'Europe, vivait dans la plus profonde conviction que ses aïeux aborigènes avaient fait une très grande erreur quand ils s'étaient laissés enchanter par la lumière de l'Europe. Pareillement à cette jeune femme vierge de Phagosa qui, du haut d'un récif, repoussa les premiers missionnaires avec son éventail. « Écartez-vous de là, démons malfaisants !» Il vit aussi dans l'Europe l'obscur démon, le principe destructeur dont il faut se garder si l'on veut conserver son innocence. Quand je connus Tuï Avi, il vivait paisiblement à l'écart du monde européen, sur la petite île éloignée d'Upolu, qui appartient au groupe de Samoa, dans le village de Tiavea, dont il était le plus important chef de tribu. Sa première approche était celle d'un géant massif et amical. Il était bien haut de 2 mètres et d'une constitution extraordinairement forte. Tout à l'opposé, sa voix résonnait doucement et suavement comme celle d'une femme. Ses grands yeux sombres, enfoncés, ombragés d'épais sourcils, avaient un je ne sais quoi d'étrange et de fixe. Mais dans une prise de parole soudaine, il s'embrasait chaudement et dévoilait une âme lumineuse et bienveillante. Par ailleurs, rien ne différenciait Tuï Avi de ses frères aborigènes. Il buvait son kava, c'est une boisson populaire des îles de Polynésie, préparée à partir de racines de l'arbuste kava. Il se rendait le soir et le matin au loto, c'est l'office religieux, mangeait des bananes, des taros et des yams, qui sont des plantes cultivées pour leur tubercule, et s'adonnait à toutes les habitudes et coutumes du pays. Seuls ses plus intimes savaient ce qui refermait continuellement son esprit en quête de clarté quand il reposait sur sa grande natte, comme songeant, les yeux mi-clos. C'est de ce caractère exceptionnel que provient le souhait de Tuï Avi de découvrir la lointaine Europe, un désir impatient qu'il entretenait déjà quand il était élève à l'école des missionnaires maristes, mais qui ne se réalisa qu'à la maturité. S'attachant à un groupe folklorique qui parcourait alors le continent, cet assoiffé d'expérience visita l'un après l'autre tous les États européens et acquit une connaissance précise de l'âme et de la culture de ces pays. J'ai eu plus d'une fois l'occasion de m'étonner de la justesse de ses connaissances, touchant à des petites choses insignifiantes. Tuï Avi possédait à un haut niveau le don de l'observation lucide, sans préjugés. Rien ne pouvait l'aveugler. Aucun mot ne pouvait le distraire d'une vérité. Il voyait la chose en soi. Ainsi, dans toutes ses observations, il n'abandonnait jamais son propre point de vue. Bien que j'ai vécu plus d'un an dans son voisinage immédiat, j'étais membre de son village, Tuï Avi ne s'ouvrit à moi que lorsque nous devînmes amis, après qu'il eut dépassé et oublié que j'étais européen. Quand il se fut assuré que j'étais mûr pour sa sagesse simple et qu'elle ne serait pas, une fois sujet à moquerie de ma part, alors seulement il me fit écouter des extraits de ses notes. Il me les lut d'un ton égal, sans effet oratoire, comme si tout ce qu'il avait à dire était historique. Et directement par cette élocution, son discours eut sur moi un effet des plus purs et des plus clairs, et fit naître en moi le vœu de garder les mots entendus. Ce n'est que beaucoup plus tard que Tuï Avi mit ses notes entre mes mains, et m'accorda la possibilité d'une traduction allemande qui, comme il le pensait, devait servir uniquement à un commentaire personnel, et ne jamais être un but en soi. Tous ces propos sont des premiers jets. Ils ne sont pas remaniés et achevés par Tuï Avi, qui ne les a jamais relus. Il ne voulait commencer sa mission, comme il disait, en Polynésie, qu'après avoir pleinement ordonné le sujet dans son esprit et l'avoir parfaitement pénétré pour une ultime clarté. J'ai dû quitter l'Océanie sans pouvoir attendre le résultat de cette maturation. J'avais la grande ambition de rester le plus fidèle possible à l'original dans ma traduction, et je ne me suis pas permis non plus, dans la mise en ordre des textes, la moindre intervention. J'ai compris pourtant combien l'art intuitif de l'expression et le souffle de la transmission directe se sont perdus. Celui qui connaît les difficultés pour traduire une langue primitive, de rendre ses expressions ingénues sans qu'elles manquent de saveur et de relief, m'excusera volontiers. Tuiavi, l'insulaire sans culture, considérait toutes les acquisitions culturelles européennes comme de la folie, comme une impasse. Cela pourrait paraître prétentieux s'il n'exposait pas cela avec une merveilleuse simplicité délivrée par un cœur humble. Il met en garde ses compatriotes et les appelle à se libérer de la fascination du blanc. Mais il le fait avec le ton de la mélancolie, témoignant que son ardeur missionnaire prend sa source dans l'amour humain, non dans la haine. « Vous croyez nous apporter la lumière, » me dit-il lors de notre dernière entrevue. « En vérité, vous voulez nous entraîner dans vos ténèbres ?» Il regarde les choses et les événements de la vie avec la loyauté et l'amour de la vérité d'un enfant. Il s'engage dans des protestations et découvre de profondes carences morales. Et pendant qu'il les dénombre et se les rappelle, ils deviennent pour lui une dernière expérience. Il ne voit pas où est la haute valeur de la culture européenne quand elle dépouille l'homme de lui-même, le rend faux, dénaturé et méchant. Quand il décrit nos acquisitions, commençant par la peau, notre apparence, et les nomme d'une façon non européenne, dénuée de préjugés, il nous dévoile un spectacle plutôt limité de nous-mêmes, et l'on ne sait pas si l'on doit sourire de l'acteur ou de la représentation. C'est dans cette ouverture de l'enfant et cette absence d'entrave au jugement que se situe, à mon avis, la valeur des propos de Tuiavi, pour nous, Européens, et la raison d'une publication. La guerre mondiale, la Grande Guerre de 1914-18, nous a rendus sceptiques envers nous-mêmes. Nous commençons aussi à voir les vraies valeurs et à douter que nous puissions réaliser notre idéal profond dans cette culture-là. Ne nous considérons donc pas comme trop cultivés. Descendons un peu du haut de notre esprit vers la façon simple de voir et de penser de cet insulaire des mers du Sud, qui n'est chargé d'aucune formation européenne et, encore intact dans son ressenti et son regard, peut nous aider à reconnaître comment nous nous sommes privés du sens du sacré pour créer en échange des idoles mortes. Il s'agissait donc de l'introduction d'Erich Scheuermann à Horn in Baden en 1920. Chapitre 1er, les couvre-chères du papalagui, ses nombreux pangs et nattes. Le papalagui est continuellement préoccupé de bien recouvrir sa chair. Le corps et ses membres sont de la chair, seulement ce qui est au-dessus du cou est l'homme véritable. Voici ce que me disait un blanc qui jouissait d'une grande considération et passait pour très intelligent. Il pensait que n'était digne du regard que le lieu où l'esprit et toutes les bonnes et mauvaises pensées séjournent, la tête, que le blanc laisse volontiers découverte, ainsi qu'à la rigueur, les mains. Bien que la tête et les mains ne soient rien que de la chair et des os, celui qui laisse voir sa chair à d'autres endroits ne peut prétendre à la reconnaissance sociale. Quand un jeune homme fait d'une jeune fille sa femme, il ne sait jamais s'il n'est pas dupé, car il n'a jamais vu son corps auparavant. Même plus tard, elle ne le lui montrera que rarement, et la nuit seulement, ou au crépuscule. Une jeune fille aurait-elle grandi en beauté, comme la plus belle Taopo, c'est une vierge du village, une reine des jeunes filles de Samoa. Elle couvre son corps, afin que personne ne puisse le remarquer, ni se réjouir à sa vue. La chair est péché. Ainsi parle le papalagui, car seul son esprit est grand selon lui. Le bras qui va lancer un objet dans la lumière du soleil est une flèche du péché. La poitrine sur laquelle déferle la vague de l'inspiration est le carquois du péché. Les membres sur lesquels la Vierge nous offre une siva, une danse aborigène, sont pécheurs. Et même les membres qui s'attouchent pour engendrer les hommes à la joie de la grande terre sont péchés. Tout ce qui est chair est péché. Dans chaque tendon vit un poison sournois qui bondit d'homme à homme. Qui regarde seulement la chair absorbe le poison. Il est atteint et devient aussi mauvais et rejeté que celui qui se donne à voir. Voilà ce que disent les lois morales sacrées de l'homme blanc. C'est pour cela que le corps du papalagui est de la tête aux pieds enveloppé de pagnes, de nattes et de peaux, si serrés et si épais qu'aucun œil humain, aucun rayon de soleil ne les traverse. Si serrés que son corps devient pâle, blanc, fatigué comme les fleurs qui poussent au fond de la forêt vierge. Laissez-moi vous décrire, frère plus sensé des nombreuses îles, quel poids un seul papalagui porte sur son corps. Tout en dessous, une mince peau blanche, appelée la peau d'en haut, enveloppe le corps nu. Cette peau provient des fibres d'une plante. On l'élève et on la fait retomber de haut en bas par-dessus la tête, la poitrine et les bras jusqu'aux cuisses. Par-dessus les jambes et les cuisses, jusqu'au nombril tiré de bas en haut, vient la peau d'en bas. Ces deux peaux sont recouvertes par une troisième peau plus épaisse, faite avec les poils entrelacés d'un quadrupède laineux qui est élevé spécialement dans ce but. C'est le véritable pagne. Il se compose la plupart du temps de trois parties dont l'une recouvre le haut du corps, l'autre le milieu et la troisième les cuisses et les jambes. Toutes trois sont tenues ensemble par des coquillages et des cordons fabriqués avec la sève séchée du gommier. Mais c'est les boutons et les élastiques, si bien qu'elles ont l'air d'une seule pièce. Ce pagne est en général gris comme la lagune à la saison des pluies. Il ne doit jamais être très coloré. Au plus, la partie du milieu est seulement chez les hommes qui aiment faire parler d'eux et courent beaucoup les femmes. Les pieds, enfin, sont aussi pourvus d'une peau douce et d'une peau très dure. La douce est souvent souple et s'adapte bien aux pieds, au contraire de la dure. Celle-ci est faite avec la peau d'un animal vigoureux qui est longtemps plongé dans l'eau, raclé avec des couteaux, battu et exposé au soleil jusqu'à ce qu'elle durcisse complètement. Le papalagui s'en sert alors pour fabriquer une sorte de pirogue à bord relevé, juste assez grande pour accueillir un pied. Une pirogue pour le pied gauche et une pour le pied droit. Ces bateaux pour pieds sont crochetés et ficelé solidement au cou de pied, de sorte que les pieds s'allongent dans une coque solide comme le corps d'un escargot de mer. Le papalagui porte les peaux de pied du lever au coucher du soleil. Il va dedans en mélaga, c'est-à-dire quand il part en voyage, et danse là-dedans. Il les porte même si le temps est aussi torride qu'après une pluie tropicale. Le blanc remarque bien que cela n'est pas du tout naturel, parce que cela rend les pieds comme morts et commençant déjà à puer, et parce que, effectivement, la plupart des pieds européens ne peuvent plus agripper ni grimper à un palmier. Alors le papalagui essaye de dissimuler sa folie en recouvrant la peau rouge de cet animal avec beaucoup de boue qu'il fait briller en la frottant si bien que les yeux sont aveuglés et doivent se détourner. Il y eut en Europe un papalagui renommé. Beaucoup de gens venaient à lui parce qu'il leur disait « Ce n'est pas bon de porter aux pieds des peaux si serrées et si lourdes, aller pieds nus sous le ciel aussi longtemps que la rosée de la nuit tapisse l'herbe et toute maladie se retirera de vous. » Cet homme était très sain et intelligent. Mais on a ri de lui et on l'a bientôt oublié. La femme porte aussi, comme l'homme, beaucoup de nattes et de pagnes entortillées autour du corps et des cuisses. Sa peau est à cause de cela couverte de balafres et de marques dues au cordon. Les seins sont devenus faibles et ne donnent plus de lait à cause de la pression d'une natte nouée devant la poitrine et sur le dos, et allant du cou au bas du corps, une natte fabriquée très durement avec des arêtes de poisson, mais c'est les corsets en baleine. Des fils et du fil de fer. Ainsi, la plupart des mères donnent à leurs enfants le lait dans un rouleau de verre, fermé en bas, et qui porte en haut un téton artificiel. Ce n'est pas non plus leur propre lait qu'elles donnent, mais celui d'animaux rouges, vilains et cornus, auxquels on le soutire de force, de quatre tétons sous le ventre. Du reste, les pagnes des femmes et des filles sont plus fins que ceux des hommes, mais peuvent aussi avoir des couleurs et briller de loin. Aussi, le cou et les bras transparaissent souvent et font voir plus de chair que chez l'homme. Pourtant, on apprécie qu'une jeune fille se couvre beaucoup, et les gens disent avec satisfaction « elle est chaste », ce qui doit vouloir dire « elle fait attention aux commandements de la société rangée ». C'est pour cela que je n'ai jamais saisi pourquoi, lors de grands fauneaux, ce sont nos réunions et les soirées, et de festins, les femmes et les jeunes filles ont le droit de laisser voir leur chair librement au cou et dans le dos, sans que cela soit un déshonneur. Mais c'est peut-être ça justement l'épice de la festivité. Ce qui est permis une fois ne l'est pas tous les jours. Les hommes seulement gardent le cou et le dos constamment bien couverts, du cou jusqu'au téton. Un ali, un monsieur, porte un morceau de pagne durci à la chaux. Il s'agit du plastron blanc, de la grandeur d'une feuille de tarot. Là-dessus repose, enroulé autour du cou, un haut cercle du même blanc. Il s'agit du col, également durci à la chaux. Il tire de ce cercle un morceau de pagne coloré, il l'entrelace comme un cordage de bateau, enfonce à travers un clou en or ou une perle de verre et laisse pendre le tout sur le bouclier. Beaucoup de papalagis portent aussi des cercles chaulés aux poignets, mais jamais aux chevilles. Ce bouclier blanc et les anneaux blancs chaulés sont très significatifs. Un papalagi ne sera jamais en présence d'une femme sans cet ornement du cou. C'est encore pire quand l'anneau est devenu noir et ne rend plus de lumière. C'est pour cela que beaucoup de grands alis changent chaque jour de bouclier et d'anneau. Alors que la femme a de nombreuses nattes colorées pour les fêtes, des coffres dressés remplis, et qu'elle donne beaucoup de ses pensées au pagne qu'elle mettra aujourd'hui ou demain, s'il devra être long ou court, alors qu'elle parle toujours avec beaucoup d'amour de la parure qu'elle doit accrocher dessus, l'homme n'a le plus souvent qu'un seul habit de fête et n'en parle presque jamais. C'est l'habit d'oiseau, un pagne d'un noir profond qui tombe dans le dos pointu comme la queue du perroquet des bois, c'est la queue de pie. Avec cet habit d'apparat, les mains doivent aussi porter des peaux blanches, des peaux sur chaque doigt, si étroites que le sang brûle et court vers le cœur. Il est permis aux hommes censés de tenir ces peaux dans les mains ou de les coincer dans le pagne au niveau des tétons. Dès qu'un homme ou une femme quitte sa hutte et pose le pied dans la rue, il s'enveloppe encore dans un pagne plus ample, épais ou fin selon que le soleil brille ou non. Ensuite, ils couvrent aussi leur tête. Les hommes avec un vase rigide et noir, creux et bombé comme le toit d'une maison de Samoa. Les femmes avec de grands raffias entrelacés ou des paniers renversés où elles attachent des fleurs qui ne fanent jamais, des plumes d'apparat, des perles de verre, des morceaux de pagne et toutes sortes de décorations. Ils ressemblent à la parure d'une taopou lors de la danse de guerre. Sauf que celle-ci est beaucoup plus belle et ne peut tomber de la tête ni pendant la danse ni pendant la tempête. Les hommes agitent ces maisons de tête à chaque rencontre pour saluer, pendant que les femmes inclinent seulement leur fardeau doucement vers l'avant comme une barque mal chargée. Ce n'est qu'à la nuit, quand le papalagi cherche la natte, qu'il se débarrasse de tous les pagnes, mais il s'enveloppe aussitôt d'un nouveau pagne unique ouvert au pied. Les filles et les femmes portent ce pagne de nuit, souvent richement décoré, au bord du cou, bien qu'on le voie peu. Dès que le papalagi est couché sur sa natte, il se couvre immédiatement jusqu'à la tête avec les plumes du ventre d'un grand oiseau rassemblées dans un grand pagne pour qu'elles ne tombent et se dispersent ni ne s'envolent. Ces plumes font transpirer le corps et amènent le papalagi à penser qu'il est couché au soleil, même s'il ne brille pas, car il ne fait pas beaucoup attention au vrai soleil. Alors il est clair qu'avec tout ça, le corps du papalagi devient blanc et pâle, sans les couleurs de la joie. Mais c'est ainsi que le blanc aime vivre, Les femmes, surtout les jeunes, sont anxieuses et préoccupées de protéger leur peau pour qu'elles ne rougissent jamais à la grande lumière. Et dès qu'elles vont au soleil, elles tiennent pour la défendre un grand toit au-dessus de leur peau. Comme si la pâle couleur de la lune était plus précieuse que la couleur du soleil. Mais le papa Lagui aime en toute chose se faire une science et une loi à sa façon. Parce que son nez est pointu comme la dent du requin, il est vraiment beau. Et le nôtre, qui reste éternellement rond et mou, il le déclare affreux, vilain. Alors que nous disons exactement le contraire. Et parce que le corps des femmes et des jeunes filles sont si fortement recouverts, les hommes et les adolescents ressentent un grand désir de voir leur chair, comme c'est naturel en effet. Ils y pensent jour et nuit et parlent beaucoup des formes du corps des femmes et des filles, et toujours comme si ce qui est beau et naturel était un grand péché et ne pouvait arriver que dans l'ombre obscure. S'ils laissaient voir ouvertement la chair, ils s'adonneraient à d'autres pensées, leurs yeux ne loucheraient pas et leur bouche ne dirait pas de mots libidineux quand ils rencontrent une jeune fille. Mais la chair est péché, tient de l'Aïtou. L'Aïtou, c'est le mauvais esprit, le diable. Y a-t-il une pensée plus stupide, cher frère? Si on croyait aux paroles du blanc, on souhaiterait avec lui que notre chair soit dure comme la pierre de lave et sans sa belle chaleur qui vient de l'intérieur. Mais nous pouvons encore nous réjouir de ce que notre chair peut parler avec le soleil, de ce que nos jambes peuvent s'élancer comme le cheval sauvage, parce qu'aucun pagne ne les lie et aucune peau de pied ne les alourdit. Et nous ne portons pas de couverture de tête à laquelle il faut faire attention. Soyons dans la joie à la vue de la Vierge belle de corps qui montre ses membres à la lumière du soleil et de la lune. Le blanc est idiot, aveugle. Il n'a pas le sens de la vraie joie, lui qui doit tellement s'envelopper pour ne pas avoir honte. Chapitre 2. Les coffres en pierre, les fentes de pierre, les îles de pierre et ce qu'il y a entre elles. Le papa Lagui habite, comme les fruits de mer, dans une coquille dure. Il vit entre les pierres comme le scolopendre entre les fentes de lave. Les pierres sont tout autour de lui, à côté de lui et au-dessous de lui. Sa hutte ressemble à un coffre en pierre debout, un coffre plein de cases et de trous. On ne peut rentrer et sortir de la coquille de pierre qu'en se glissant par un seul endroit. Le papa Lagui appelle cet endroit l'entrée quand il entre dans la hutte, la sortie quand il en sort, bien que les deux ne soient qu'une seule et même chose. À cet endroit se trouve un grand bâton de bois qu'il faut pousser vigoureusement avant de pouvoir entrer dans la hutte. Mais on n'en est qu'au début, et il faut encore pousser plusieurs bâtons. Ce n'est qu'ensuite qu'on est vraiment dans la hutte. La plupart des huttes sont habitées par plus de gens qu'un seul village de Samoa. On doit savoir exactement le nom de Laïga, Laïga c'est la famille, à qui l'on rend visite. Car chaque Aïga à sa propre part du coffre de pierre, soit en haut, soit en bas, soit au milieu, à droite ou à gauche ou tout droit. Et une Aïga ne sait souvent rien de l'autre, absolument rien, comme s'il n'y avait pas seulement un mur de pierre entre elles, mais Manono, Apolima, Savaï et de nombreuses mers. Donc sinon, il s'agit de trois îles qui appartiennent au groupe de Samoa. Ils savent souvent à peine leur nom, et quand ils se rencontrent devant le trou où ils se glissent, ils ne se saluent qu'à contre-cœur ou bourdonnent comme des insectes ennemis, comme s'ils étaient fâchés de devoir vivre proches les uns des autres. Si la Higa habite en haut, tout à fait sous le toit de la hutte, on doit escalader beaucoup de branches en zigzag ou en rond jusqu'à ce qu'on arrive au lieu où le nom de la Higa est écrit sur le mur. Alors on voit devant soi la gentille copie d'un téton féminin sur laquelle on appuie et un cri résonne faisant venir la Higa. La personne regarde par un petit trou rond et grillagé dans la paroi du mur, s'il s'agit d'un ennemi. Dans ce cas, elle n'ouvre pas. Mais quand elle reconnaît l'ami, elle détache aussitôt un grand bâton de bois qui est solidement enchaîné et le tire à elle pour que l'hôte puisse entrer par la fente dans la hutte proprement dite. Et celle-ci est encore rompue par beaucoup de parois de pierres raides et on se glisse plus loin par des battants et battants de coffre en coffre qui deviennent de plus en plus petits. Chaque coffre, que le papalagui appelle une pièce, a un trou par lequel entre la lumière. Quand il est plus grand, deux ou plus. Ces trous sont fermés par du verre que l'on peut retirer quand l'air frais doit entrer dans les coffres, chose vivement nécessaire. Mais il y a beaucoup de coffres sans trous d'air et de lumière. Un Samoan étoufferait vite dans un coffre semblable, car il n'y passe nulle part un courant d'air frais, comme dans chaque hutte de Samoa. Et aussi les odeurs du coffre cuisine cherchent une sortie, mais la plupart du temps, l'air qui vient du dehors n'est pas meilleur. Et on a du mal à saisir qu'un être humain ne meurt pas ici, que de nostalgie il ne devienne pas un oiseau, qu'il ne lui pousse pas des ailes pour s'élancer et voler où se trouvent l'air et le soleil. Mais le papalagui aime ses coffres de pierre et ne remarque plus comme ils sont malsains. Et chaque coffre de pierre a un but particulier. Le plus grand et le plus clair sert au fauneau de la famille ou à recevoir les visiteurs. Un autre sert à dormir. Là, les nattes sont posées sur un socle en bois avec de longs pieds pour que l'air puisse circuler sous les nattes. Un troisième coffre sert à prendre les repas et à faire des nuages de fumée. Un quatrième garde les provisions. Dans le cinquième, on cuisine. Et dans le dernier, le plus petit, on se baigne. Celui-ci est l'endroit le plus beau de tous. Il est revêtu de grands miroirs. Le sol est décoré par une couche de pierres colorées et au milieu il y a une grande coquille en métal ou en pierre dans laquelle de l'eau ensoleillée ou non se précipite. On monte à l'intérieur de cette si grande coquille, plus grande qu'une vraie tombe de chef, pour se nettoyer et se rincer de tout le sable des coffres de pierre. Il y a bien sûr d'autres huttes avec plus de coffres. Il y a même des huttes où chaque enfant, chaque serviteur du papalagui a son propre coffre. Même ses chiens et ses chevaux en ont. Et le papalagui passe sa vie dans ses coffres. Il est tantôt dans ce coffre-ci, tantôt dans ce coffre-là, selon l'heure du jour. Ses enfants grandissent là, entre les pierres, au-dessus de la terre, souvent plus haut qu'un palmier au terme de sa croissance. De temps en temps, le papalagui quitte ses coffres privés, comme il dit, pour monter dans un autre coffre qui sert à ses occupations, pour lesquelles il ne veut pas être dérangé et n'a besoin ni de femmes ni d'enfants. Pendant ce temps, les femmes et les filles sont au foyer et cuisinent, ou font luire les pots de pied, ou lavent les pagnes. Quand elles sont riches et peuvent entretenir des serviteurs, ceux-ci font le travail et elles-mêmes vont en visite ou chercher de nouvelles provisions. En Europe, vivent de cette façon autant d'hommes qu'ils poussent de palmiers à Samoa, et même beaucoup plus. Quelques-uns ont bien une grande nostalgie de la forêt, du soleil et de beaucoup de lumière, mais c'est considéré en général comme une maladie qu'il faut maîtriser. Si quelqu'un n'est pas content de cette vie de pierre, on dit « cet homme n'est pas normal », ce qui doit vouloir dire « il ne sait pas ce que Dieu a décidé pour l'homme ». Et ces coffres de pierre sont parfois en grand nombre, serrés les uns près des autres. Pas un arbre, pas un arbuste ne les sépare. Ils sont comme des hommes épaule contre épaule, et dans chacun il y a autant de papalagui que dans un village entier de Samoa. Un jet de pierre plus loin, sur l'autre côté, il y a la même rangée de coffres de pierre, de nouveau épaule contre épaule, et dans ceux-là aussi des hommes vivent. Entre les deux rangées, il n'y a qu'une fente étroite que le papalagui appelle la rue. Cette fente est souvent aussi longue qu'un fleuve et recouverte de pierres dures. Il faut courir longtemps pour trouver un endroit plus libre. Pourtant, des fentes de pierre y débouchent encore. Elles sont de nouveau longues, comme les grands fleuves d'eau douce, et leurs ouvertures latérales sont de nouveau des fentes de pierre de même longueur. Ainsi, on peut errer tout le jour parmi ces fentes, avant de trouver de nouveau une forêt ou un grand morceau de ciel bleu. Au milieu des fentes, on ne voit que rarement la bonne couleur du ciel, parce que dans chaque hutte il y a au moins un, souvent plusieurs foyers, et l'air est presque toujours rempli de fumée et de cendres, comme pendant une éruption du grand cratère à Savaï. Cet air descend en pleuvant dans les fentes, si bien que les hauts coffres de pierre ressemblent à la vase du marais de mangrove, et les hommes reçoivent dans les yeux et les cheveux de la terre noire et du sable dur entre les dents. Mais tout ceci n'empêche pas les gens de courir un peu partout dans ces fentes du matin au soir. Il y en a même beaucoup qui en ressentent un certain plaisir. Dans quelques fentes, c'est particulièrement le chaos, et les hommes s'y écoulent comme une vase épaisse. Ce sont les rues où sont implantées de gigantesques caisses de verre, où sont étalées toutes les choses dont un papalagui a besoin pour vivre. Des pagnes, des ornements de tête, des peaux de mains et de pieds, des provisions, de la viande et de la vraie nourriture comme des fruits et des légumes et beaucoup d'autres choses encore. Elles sont là présentées pour attirer les gens. Mais personne n'a le droit de prendre quelque chose, même si ça lui est nécessaire. Il faut d'abord pour cela une permission spéciale et il faut avoir fait une offrande ou un sacrifice. Dans ces fentes, beaucoup de dangers menacent de tous côtés, car les gens ne font que courir de ci, de là, ils conduisent aussi des véhicules et vont à cheval dans tous les sens, ou se font transporter dans de grands coffres vitrés qui glissent sur des bandes métalliques. Cela fait beaucoup de bruit. Tes oreilles sont assourdies, car les chevaux font sonner leurs sabots sur les pierres du sol, et les hommes, leurs dures peaux de pied, les enfants crient, les hommes crient de joie ou d'effroi, tous crient. On ne peut pas se faire comprendre autrement qu'en criant. C'est un vacarme général. Cela siffle, clique, piaffe, comme si tu te trouvais à Savaï quand les flots se brisent sur la falaise, un jour où l'orage gronde. Et cependant, ce grondement est plus aimable et ne perturbe pas autant les sens que celui qui gronde entre les fentes de pierre. Enfin, les coffres de pierre et les multiples personnes, les grandes fentes traçant ici et là comme mille rivières, les hommes dedans, les bruits, les grondements, le sable noir et la fumée surtout, sans un arbre, sans le bleu du ciel, sans l'air clair des nuages, c'est tout cela que le papalagui appelle une ville, création dont il est très fier, bien que vivent là des hommes qui n'ont jamais vu une forêt, ni un ciel dégagé, ni le grand esprit face à face. Des hommes qui vivent comme des reptiles de la lagune dans les coraux, quoique cela, l'eau de la mer les baigne et le soleil les pénètre de sa bouche chaude. Est-ce que le papalagui est fier des pierres qu'il a réunies? Je ne sais pas. Le papalagui est un homme au sens particulier. Il fait beaucoup de choses qui n'ont pas de sens et le rendent malade. Pourtant, il les estime et se chante de belles chansons dessus. Voilà. La ville est comme je viens de le dire. Mais il y a beaucoup de villes, petites et grandes. Les plus grandes sont celles où habitent les plus hauts chefs d'un pays. Toutes les villes sont éparpillées comme nos îles dans la mer. Elles sont éloignées l'une de l'autre tantôt seulement d'un sentier de baignade, tantôt d'un jour de voyage. Toutes les îles de pierre sont reliées entre elles par des chemins tracés. Mais tu peux aussi t'y rendre avec un bateau terrestre, qui est mince et long comme un verre, qui crache continuellement de la fumée et qui glisse très vite sur de longs fils de fer, plus vite qu'un bateau à 12 rameurs en pleine course. Mais si tu veux seulement crier « Talofa !» Talofa, c'est un salut samoan et qui veut littéralement dire « Je t'aime ». À ton ami, qui est sur une autre île, tu n'as pas besoin d'aller chez lui ni d'y glisser. Tu souffles tes mots dans des fils de métal qui vont d'une île de pierre à l'autre comme de longues lianes et ils arrivent au lieu que tu as fixé, plus vite qu'un oiseau. Entre toutes ces îles de pierre, il y a la terre proprement dite qu'on appelle l'Europe. Ici, la terre est en partie belle et fertile comme chez nous. Elle porte des arbres, des fleuves et des forêts. Et il y a aussi de parfaits petits villages. Si les huttes sont aussi en pierre, elles sont quand même souvent entourées d'arbres fruitiers. La pluie peut les laver et le vent les sécher de tous côtés. Dans ces villages vivent d'autres hommes qui ont d'autres sens que ceux des villes. On les appelle les hommes de la terre. Ils ont des mains plus grosses et des pagnes plus sales que les hommes des fentes, bien qu'ils aient beaucoup plus à manger qu'eux. Leur vie est plus saine et plus belle que celle de l'homme des fentes. Mais eux-mêmes ne le croient pas, et envient ceux qu'ils appellent les fainéants, parce qu'ils ne mettent pas les mains dans la terre pour enfouir ou déterrer les fruits. Ils vivent en inimitié avec eux, parce qu'ils doivent leur donner de la nourriture de leur terre, doivent cueillir les fruits que l'homme des fentes mange, doivent garder et élever le bétail jusqu'à ce qu'il soit gras et lui en remettre en plus la moitié. Ils peinent beaucoup, certainement, à remuer la nourriture pour tous les hommes des fentes, et ils ne trouvent pas juste que ceux-ci portent de plus beaux pagnes qu'eux et aient de plus belles mains blanches sans devoir beaucoup suer au soleil ni grelotter sous la pluie. Mais cela préoccupe très peu l'homme fente. Il est persuadé qu'il a de plus grands droits que l'homme terre et que ses propres travaux ont plus de valeur que le fait de planter ou ramasser les fruits du sol. Cette querelle entre les deux parties n'en est tout de même pas à ce point qu'elle mène à la guerre entre eux. Qu'ils vivent dans des fentes, ou sur la terre en général, le papalagui trouve que tout est bien comme c'est. L'homme terre s'émerveille de la richesse de l'homme fente quand il va là-bas, et l'homme fente chante et se gargarise le menton relevé quand il passe par les villages de l'homme terre. L'homme des fentes laisse l'homme de la terre engraisser les cochons artificiellement, celui-ci laisse l'homme des fentes construire ses coffres de pierre et les aimer. Mais nous, qui sommes des enfants libres du soleil et de la lumière, nous voulons rester fidèles au grand esprit, et ne pas lui alourdir le cœur avec des pierres. Ne peuvent vivre heureux entre des fentes de pierre sans soleil, lumière et vent que des hommes égarés, malades, qui ne tiennent plus la main de Dieu. Accordons au papalagui son bonheur douteux, mais ruinons chacun de ses essais d'élever des coffres de pierre sur nos rivages ensoleillés, et de tuer la joie de vivre des hommes avec de la pierre, des fentes, de la saleté, du bruit, de la fumée et du sable, comme c'est son but.
Pure consciousness, and why a man is fighting with man, why a religion should fight a religion, why a religion should insult an other religion, because philosophy is sin. Superstition. God is one. Superstition.
Proposer aujourd'hui le début du livre Le Papalagui, dont vous retrouverez les références ainsi que le podcast de cette émission sur le site de la radio de Radio Diwa, rdwa.fr. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer la lecture de ce livre fort instructif, et j'espère que vous avez pu partager cette instruction. Et donc est venu le temps de trouver Michael pour cette improvisation mystique, vocale et autodidacte qui tiendra agréable compagnie jusqu'à midi. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une émission de Radio Médium dédié à des lectures de textes mystiques. Bonne fin de matinée en notre compagnie et à bientôt.
Vive la voix du cœur, Il se salue, se déplie à sa propre écoute. N'allez donc savoir qui le gouverne, car il n'y a ni maître ni sujet sous son règne. Le chemin le plus long va de la tête au cœur. Seul le bon cœur, le juste cœur ému, et notre plus belle parure. Cœur soit, ça sera. Cœur ouvre soit, sage joie sera. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur.
Mom.